Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés.
Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui.
Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance qui résidait en Élie, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. »
Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. »
Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il y avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur ».
Ce temps de l'Avent est manifestement, Dadi l'a dit aussi, un temps d'attente. Et aujourd'hui, on met effectivement l'accent sur le verbe « attendre ». Et nous aurons un verbe pour nous conduire ou nous inspirer pendant tout ce mois de décembre, un verbe différent, chaque dimanche. Et aujourd'hui, l'attente. Et pour parler de l'attente, j'ai trouvé donc un petit couple bien sympathique dans l'évangile de Luc, dont nous avons entendu l'histoire, et c'est Zach et Lise, un couple dans l'attente. Zach, est un sacrificateur, vous l'avez entendu, ou un prêtre. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 24 classes de sacrificateurs au travail 2 fois une semaine par an. C'est pas trop quand même. Mais en dehors de ces 2 semaines par an, le plus important pour eux, ces prêtres, ces sacrificateurs, c'était d'allumer le feu sur l'autel des parfums. Et ça arrivait une seule fois dans sa vie, ou pas, ou même jamais. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Zach. C'est un moment important pour lui. Mais qu'est-ce qu'il attend de ce moment particulier? Et puis, avec sa femme Liz, ils attendent, ou ils n'attendent plus peut-être, un bébé, un enfant. Le récit insiste là-dessus. Ils n'avaient pas d'enfant. Et puis,
contre toute attente, Zach va recevoir la visite d'un ange, d'un messager de Dieu qui va lui annoncer une bonne nouvelle. La naissance de Jean, de JB, de Jean-Bas, de Jean-Baptiste. Et vous savez, celui qui prépare, Jean-Baptiste, le chemin du Seigneur, qui est quelque part le successeur d'Élie. Et vous savez d'ailleurs que les deux cousins vont naître à la même période, Jean-Baptiste et Jésus. Il y a de la naissance dans l'air, c'est normal, c'est Noël qui arrive. On célèbre des naissances. Normal, mais enfin, quand même, un jour exceptionnel pour Zach et Lise, qui ne s'attendaient pas à être invités à une pareille fête. Et on va regarder un petit peu plus près leur histoire de Zach et Lise, en deux temps, trois mouvements, plutôt trois temps. D'abord, le temps de Dieu. On l'a dit, pour Zacharie, cette semaine au temple est tout à fait exceptionnelle. C'est le moment, c'est l'instant. Et pour Zacharie, c'est peut-être le moment le plus important de sa vie. C'est un moment choisi, particulier, une occasion exceptionnelle. En grec, c'est le mot « kairos », qui veut dire un temps exceptionnel, une occasion exceptionnelle, un temps favorable. En grec, il y a deux mots pour désigner le temps, le « chronos », qui a donné « chronomètre », « chronologie », et « kairos », qui n'a rien donné. Le « chronos », mesure le temps mesurable. C'est le temps des montres et des calendriers, des chronomètres et de la chronologie. C'est le temps qui défile et qui nous pèse parfois. Le kairos, c'est le temps où il se passe quelque chose de vraiment significatif dans la vie, qui donne du sens à la vie. Le temps où l'événement donne du sens, où l'avènement donne du sens. C'est le temps qui nous élève et qui nous enthousiasme. Si le chronos est quantitatif, le kairos est qualitatif. Et il est utilisé dans notre récit. Mes paroles, tu n'as pas cru en mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. En grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, c'est le mot kairos pour les temps, pour le temps prévu. Le temps accompli, le temps favorable, le temps opportun. Et comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, le temps choisi par Dieu, le Dieu qui est un spécialiste du kairos, écoutez ça, en effet, Dieu déclare dans l'Écriture au moment favorable, kairos, kairo même, j'ai répondu à ton appel, au jour du salut, je suis venu à ton secours, or c'est maintenant le moment, kairos, tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le kairos. Un moment spécial, particulier, des moments opportuns, des moments spéciaux. On pourrait parler des temps forts que l'on a dans sa vie chrétienne, si l'on est chrétien. Des temps où on se sent rempli du Saint-Esprit et où le fruit de l'Esprit en nous est bien mûr. L'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh ! Et on a envie, on est rempli de l'amour de Dieu et on a envie d'évangéliser toute la Côte d'Azur, même le Rocher de Monaco. Et puis, il y a aussi des temps forts, des kairos particuliers dans la vie d'Église, dans des moments de communion, ou comme Néhémie, vous savez, qui reconstruit avec toute une troupe les murailles de Jérusalem. On est ensemble dans la construction, dans le service, dans le travail, et on est unis, et c'est magnifique. Ou des moments dans des groupes de maisons, dans des camps de jeunes, des moments où on vit des choses particulière. Je me souviens d'un moment, un week-end d'église à Saint-Martin-Vésubie, avant la tempête, où il y a eu le dimanche matin un temps de Sainte-Seine particulièrement fort, très simple, mais particulièrement fort, où toute la communauté qui était rassemblée là en montagne a vécu quelque chose qui faisait du bien et que qu'on pourrait appeler un kairos de Dieu. Après, il y a eu un match de volley après le culte qui était pas mal non plus, mais pourrait-on l'appeler un kairos de Dieu? La question est ouverte. Bon, bref. Alors, Zach, avec Lise, avec JB, nous sommes dans un kairos de l'histoire de l'humanité. Pensez donc, il ne s'était rien passé depuis 400 ans, depuis Malachi, le dernier prophète. Les porte-paroles de Dieu, les prophètes s'étaient tus et on était dans l'attente. Et puis tout d'un coup, au temps d'Hérode, Dieu prépare un kairos énorme pour un prêtre banal dont le nom est Zach. Alors pourquoi ce kairos à ce moment-là dans le chronos, dans le défilement du temps? On pourrait donner des réponses de ci, de là, qui resteront partielles. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi en l'an 0, enfin moins 3 en fait, Jésus arrive? Mais elles ne suffisent pas à expliquer ni l'événement ni l'avènement, ces explications. Nous ne sommes pas maîtres du chronos, ni même du kairos d'ailleurs. Mais si nous ne sommes pas propriétaires du kairos, nous sommes malgré tout appelés à rester attentifs et ouverts à l'intervention ou même à l'irruption de Dieu dans nos vies, dans l'histoire avec un grand H et dans notre histoire avec un petit H, pour ce qui concerne la mienne. Oui, il se peut que Dieu veuille avoir un kairos avec toi, un temps particulier avec toi. Alors nous ne pouvons pas convoquer Dieu comme un subordonné. Tiens, j'aimerais faire un petit kairos avec toi, Dieu. Mais nous pouvons attendre et nous attendre au rendez-vous qu'il propose. Et si cette période de l'Avent, et si ce Noël 2024, Dieu voulait nous rencontrer et avoir un moment particulier avec toi. On peut raisonnablement s'y attendre. Et puis, il y a un deuxième temps qui vient pour Zach. On a beau être dans un kairos de l'histoire de l'humanité, il y a un petit élément qui nous rappelle que nous sommes en présence d'êtres humains avec leurs limites et leurs faiblesses. Après le temps de Zach, le kairos de Zach, vient le temps du doute. L'ange parle d'une prière exaucée, verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Quelque part, Dieu a répondu à ton attente. Ta femme, Lise, te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Mais la réponse de Zach est un peu étonnante. Lui, le juste, l'irréprochable, comme on l'a annoncé dans le texte de l'évangile de Luc, il faisait tout bien, Zacharie. Eh bien là, il semble qu'il ait un gros moment de solitude ou un gros moment de doute. À quoi le reconnaîtrai-je? Je veux un signe. Il va en quelque part mettre en doute la parole de l'ange. Il demande un signe visible, un acompte versé, un chèque de caution. Et il ajoute un aveu. Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. De bonnes raisons de douter. Je suis vieux. Et Zacharie doit être assez âgé, il n'y a pas de retraite pour les sacrificateurs. Il y a une retraite pour les lévites, qui servent également au temple, mais en fonction de la pénibilité du travail, pour les lévites, la retraite est à 50 ans. Mais pour les sacrificateurs, comme Zach, pas de retraite. Même pas à 64 ans et demi, non, 62 ans, bon, bref. Et donc, il est vieux, et il se sent vieux. Et il ajoute, ma femme l'est aussi. C'est pas très délicat de sa part. On dit pas que sa femme est âgée. Bon, on me l'a dit, de pas le dire. Mais voilà, de bonnes raisons pour ne pas croire d'emblée à ce que lui dit un ange, même si c'est un moment tel particulier, même s'il se tient dans le lieu saint du temple, entre le chandelier d'or et l'autel des parfums. Excusez du peu, mais non. Un grand moment de solitude, de doute. Et Luc insiste sur ce doute et l'ange le perçoit. C'est un vrai doute. Et on aurait tendance à lui trouver des excuses à Zach. C'est vrai, il est vieux, sa femme aussi, mais l'auteur de l'Évangile n'essaye même pas de trouver des excuses à Zach. On a l'impression que Zach se ramasse totalement, se prend les pieds dans le tapis du temple. Des commentateurs parlent d'une incrédulité absolue. Ils y vont fort quand même pour Zacharie. Ça a l'air grave, c'est grave docteur, oui. Et donc, notre ami Zacharie n'est pas si irréprochable que cela, mais d'un autre côté, il n'est pas le seul dans la galerie des douteurs, des demandeurs de signes. Il y a Gédéon, un juge, dans l'Ancien Testament, avec cette histoire de cette toison. Cette toison, il demande un signe et il demande si cette toison peut rester sèche alors que il pleut. Et si cette toison peut rester mouillée alors que au-dessus, autour, c'est sec. C'est incroyable. Et Dieu lui répond. Et puis il y a Abraham aussi. Vous savez, la promesse en attente de la réalisation de la promesse du pays promis. Abraham, qui est montré dans toute la Bible comme un homme de foi, qui lui pose la question, qui pose la question à Dieu, « Seigneur Dieu, quand aurai-je la certitude que je le posséderai, le pays ?» Je veux des certitudes, dit Abraham. Et Dieu va répondre à cette demande et il va faire alliance, la fameuse alliance avec Abraham. À tous ces hommes de l'Ancien Testament, on pourrait parler d'Ézéchias aussi. Dieu avait répondu positivement à cette demande de signe. Et pourquoi pas à Zach alors? Mais Dieu va répondre. Mais il va le faire à sa manière, il va répondre au doute de Zacharie. Dans un premier temps, il va répondre à ce doute comme il aime le faire en se présentant. Il donne son nom. Un peu comme Moïse, qui ne savait plus trop quoi faire, qui de sa vie, qui a un moment, un carrefour de sa vie, et le buisson ardent. Et là, Dieu se révèle à Moïse par son nom. Je suis Yahvé. Je suis celui qui suis. L'être. Et avec ça, tu peux partir. Et amener ton peuple hors d'Égypte. Et là, verset 19, il s'agit de Gabriel. L'ange Gabriel, avec le « El » pour Elohim, l'autre nom de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé, Elohim. Tout ce qui est termine en « El » parle de l'éternel Elohim, enfin qui parle de Dieu. Et là, c'est le héros de Dieu, littéralement, Gabriel. Et c'est un ange qui a du gabarit, Gabriel. Un ange de haut rang, d'ailleurs, l'ange se présente et dit « Je me tiens devant Dieu et je suis envoyé pour te parler, Zacharie, moi qui suis Gabriel, pour t'annoncer une bonne nouvelle. » En grec, un évangile. Incroyable. À ce moment-là, je pense que quand Zacharie entend Gabriel se présentait comme une manifestation de Dieu. Le doute s'efface dans le cœur de Zacharie. Il se dit même qu'il a peut-être gaffé en osant émettre un doute et demander un signe. Et peut-être que nous arrivons dans cette période de Noël, le cœur rempli de doutes, de questions, d'attentes qui restent des attentes et qui commencent à devenir frustrantes. Nous sommes des hommes et des femmes bien fragiles dans notre foi. Je me souviens que quelqu'un comparait sa foi à une feuille de papier cigarette, très fine, prête à être déchirée. Nous sommes des gens de peu de foi, comme le dit Jésus à ses disciples dans la barque. Ballotté à tout vent des circonstances de la vie. Et il faudrait peut-être que nous nous rappelions à un moment donné de ce Noël 2024 du sens de cette fête. Nous célébrons Emmanuel, avec le El comme pour Elohim, Dieu, Seigneur. Emma, nous, avec nous. Dieu, avec nous. Dieu, parmi nous. Dieu qui marche avec nous en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, c'est Jésus le signe. C'est lui le kairos de Dieu. C'est lui le moment favorable, le moment opportun, le moment qui transforme tout, qui change tout. Et il est là, avec nous. C'est le signe, c'est lui le signe concret, historique, tangible, indubitable, que Dieu s'intéresse à l'histoire du monde et à notre histoire et à ton histoire. C'est lui le signe, c'est lui le kairos, et il vient à notre rencontre. Et c'est devant lui, en face de lui, comme pour Thomas, le disciple sceptique, que le doute s'efface pour laisser la place à la reconnaissance et à la confiance. Et Thomas s'agenouille devant Jésus quand Jésus lui a montré ses mains percées et son côté percé, il s'agenouille et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Un astronaute américain qui a fait partie d'un programme Apollo disait « Le plus extraordinaire, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre. » Il est Emmanuel. Et devant quelque chose d'extraordinaire, que reste-t-il à faire? Sinon, comme dit le chant, « Viens, ne tarde plus, adore. » Et puis, troisième temps, dans ce kairos de Dieu, pour Zach, c'est le temps du silence. Zacharie devient muet. Et le récit indique que cela fait suite à son doute. Et le tableau est assez cocasse. Il sort du lieu saint, les fidèles sont sur le parvis, et comme il a pris un peu de temps, un peu plus de temps que d'habitude, ils se demandent ce qui s'est passé, ils attendent une déclaration, et puis ils voient un gars muet qui gesticule, qui fait des gestes. Et on voit là beaucoup dans le mode opératoire de Dieu. D'abord, il y a beaucoup de grâce, parce que devenir muet, en fait, c'est pas vraiment une punition bien sévère. Dieu ne traite jamais le doute sévèrement. Il préfère s'en servir pour accompagner, on peut même dire pour éduquer, par souci pédagogique. Mais il y a aussi une pointe d'humour de Dieu dans le fait que Zacharie reçoit le signe qu'il avait demandé, la preuve qu'il avait demandé, qui viendrait lui donner des certitudes. Eh bien, le voici, tu seras muet jusqu'au jour de l'accouchement et tu as 9 mois pour apprécier le signe que je te donne. C'est l'humour de Dieu. Tu demandes un signe, je te le donne. Et je te donne 9 mois pour bien apprécier, pour bien travailler, pour bien réfléchir. Et c'est de l'humour de Dieu, mais c'est pas aux dépens de Zacharie. Dieu se moque pas des gens, mais c'est en sa faveur. Dieu veut le faire grandir, c'est de l'humour pédagogique. Et dans son mutisme, la foi de Zacharie s'affine, prend racine. Ces 9 mois de silence et quelque part d'attente silencieuse constituent une leçon de foi. Et ce temps d'attente silencieuse est aussi un kairos, une occasion choisie par Dieu dans le cœur pour travailler au cœur de Zacharie pour lui apprendre, quoi donc, la dépendance par rapport à Dieu. Il peut rien faire, Zacharie, pour annoncer la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste et qui sera le baptiste après, mais qui annonce aussi la naissance de celui pour lequel le chemin est préparé par Jean-Baptiste, le rédempteur d'Israël, le Messie. Et les gens pensent qu'il a juste reçu une vision, personne ne sait rien. Zacharie ne peut pas communiquer et il apprend tout simplement à faire confiance en Dieu. C'est Dieu qui communiquera cette bonne nouvelle. C'est une leçon de foi, ce mutisme. C'est une leçon aussi d'humilité pour celui qui réclamait un signe à tout prix. Fais silence et fais confiance. Et cela peut nous faire penser à des textes qui parlent de ce silence devant Dieu. Et il y en a beaucoup dans les psaumes, mais il y a celui de Jérémie. Jérémie, le prophète, qui a écrit aussi les Lamentations de Jérémie. C'est un beau livre aussi, parce qu'on a envie de se lamenter avec lui. Mais voilà ce qu'il dit, Jérémie, dans ses Lamentations. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Ce salut qui vient à Noël. Attendre dans le silence, mais non pas dans un silence vide, mais un silence rempli de confiance. Et dans cette période troublée de crise de confiance, de crise d'espérance, que chacun vit à différents niveaux, préparons-nous à Noël dans le silence de la confiance. En se souvenant encore une fois que nous célébrons Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu en notre faveur, comme s'écrit Lise à la fin, c'est pour ma faveur. Le Dieu de la grâce, il agit en notre faveur et nous pouvons lui faire confiance. Il est Adonai Jireh, en tout temps, il pourvoira. Une attente silencieuse. J'aime bien la neige parce que la neige, elle amortit les sons et il y a un beau silence dans la neige. Et parfois, il y a un bel arbre. Mon beau-frère, Marc Bilek, est ingénieur en électronique, il est américain. C'est ma sœur aînée qui s'est mariée avec lui, ils sont en Amérique, à Ann Arbor, dans le Michigan. Et il travaille, et Michigan, c'est la région de Détroit, il y a beaucoup d'usines automobiles et puis de sous-traitants. Lui, il fabrique des freins. Et je me souviens, en 2008, il y a eu un moment difficile pour sa boîte suite à la crise financière en 2008, aux États-Unis et un peu ici, un peu beaucoup peut-être. Et c'était difficile, ma sœur avait des moments de panique, mon beau-frère, qui est pourtant un calme, s'inquiétait énormément en tant que chef du département. Il avait dû licencier une dizaine de personnes de son service et il s'attendait à l'être aussi licencié. Mais tous les dimanches matin, en allant à l'église en voiture, mon beau-frère, qui n'est pas un grand bavard, faisait le même discours à ses enfants. Il se retournait un petit peu. Mais ma sœur était à côté. Voilà, Dieu m'a donné un bon job dont nous profitons bien. Ce ne sera pas toujours le cas, mais on veut faire confiance. Et j'imagine le silence dans la petite voiture, la grande voiture américaine. Et chacun, Antoine, Stéphanie, Pascal, ma sœur, qui méditait sur la confiance qu'il pouvait avoir en l'avenir, l'avenir avec Dieu, sur sa relation qu'il avait avec lui, sur sa foi en lui, sur le fondement de sa vie. Et je crois que ça a été une période de formation particulière pour ma sœur et sa famille au Michigan, une sorte de kairos. Et comme pour mon beau-frère et sa famille, comme pour Zacharie et la sienne, Dieu tient en réserve un kairos pour toi et pour toi. Un kairos pour chacun d'entre nous. Pour sûr, il va répondre à notre attente. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et Megan va s'avancer et on va chanter ensemble un chant que j'ai évoqué pendant la prédication. C'est l'adoration de Thomas le sceptique. Mon Seigneur et mon Dieu, viens, ne tarde plus, adore, on restera assis pour le chanter. Seigneur, tu connais l'état de notre cœur ce matin, un cœur en attente, un cœur peut-être frustré, un cœur impatient d'avoir des réponses, un cœur qui demande des signes que tu es bien là. Et Seigneur, autre que les signes, nous voulons simplement nous attendre à toi. Il y a ce signe que tu as donné, que Jésus est là, parmi nous, au milieu de nous, qu'il marche à nos côtés et qu'il frappe à notre porte. Et que si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, il entrera et il fera la fête avec nous. Avec celui, celle qui a ouvert la porte. Seigneur, tu veux faire la fête avec nous, tu veux célébrer un repas avec nous, le repas de Noël. Tu veux nous remplir de ta faveur, de ta grâce. Seigneur, tu veux avoir un kairos avec nous. Ne laisse pas nos cœurs nous endurcir. Ne laisse pas les circonstances de la vie nous fermer. Au contraire, Seigneur, parce que nous sommes dans un bateau ballotté par les vagues de la vie, nous voulons regarder à toi dans notre barque. Merci Jésus, parce que tu es Emmanuel et tu réponds à notre attente, non pas en enlevant tous les obstacles, non pas en nous protégeant de toute souffrance, de toute déception humaine, mais en étant là. Merci, parce que nous pouvons nous attendre à toi, nous pouvons compter sur toi, te faire confiance en silence. Amen.